toutes et à tous et bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast, vous le savez maintenant, qui a l'audace, oui, on a l'audace, d'aider les auteurs à captiver leur public. Mais aujourd'hui, bon, ça commence par un gros mais, pas d'astuces. Enfin, si, parce que Florence, elle arrive toujours à caser quelques-unes quelque part. Mais on va surtout parler de 4 autrices au destin rocambolesque. Et quand je parle de Florence, je parle bien sûr de notre conseillère littéraire préférée, Florence Georgeon. Bonjour Florence.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Et oui, effectivement, dans l'épisode 49, on avait évoqué des histoires insolites autour de 3 auteurs célèbres et de leurs œuvres et de ce qu'ils faisaient avant d'être connus. Et on avait un peu teasé un épisode consacré aux autrices. Eh bien, le voici, le voilà.
Mais c'est vrai que cet épisode était inspiré d'un quiz qu'on avait trouvé sur internet et il y avait beaucoup d'auteurs masculins. Donc on s'est dit pour rendre justice, voilà. En plus c'était la journée de la femme, il n'y a pas très longtemps. La journée des droits de la femme, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc mince, on a raté le coche, on aurait dû sortir l'épisode ce jour-là. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'Agatha Christie, de Jeanette Walls, de Margaret Atwood et de Maya Angelou. Quelles sont les références pour ce podcast, Florence ?
Alors, pour ce podcast, on s'est inspiré d'un épisode de France Inter qui s'intitule « 1966, Agatha Christie disparaît, le secret de Madame Christie ». Ça tease un petit peu de quoi on va parler. Hein.
Grave.
Ensuite, on s'est appuyé sur une vidéo YouTube d'une chaîne qui s'appelle Vintage Book et dont le titre est « Margaret Atwood, The Handmaid's Tale is being read very differently now ». Voilà, on fait ce qu'on peut avec les accents.
Wow. Non mais c'était bien.
Merci. Et une autre vidéo YouTube du WPSU qui s'intitule « Margaret Atwood on the Handmaid's Tale, Religion and Becoming a Writer ».
Ok, voilà. C'est le titre en français, Servante écarlate, non, c'est pas ça le titre en
c'est
français.
C'est ça, oui,
okay.
Tout à fait.
Pour les gens qui veulent tout de suite reconnaître de quoi on va parler dans cet épisode. Eh ben, ok, ben, alors, mais commençons directement par cette mystérieuse disparition d'Agatha Christie.
Ah, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Quand j'étais ado, je lisais beaucoup d'Agatha Christie et j'ai découvert cette histoire grâce à un épisode de Doctor Who. Est-ce que tu connais la série Doctor Who ?
Ah, je connais la série Doctor Who, effectivement. Ah. Ouais. Okay. Ah ouais, et donc ils en parlent dans un des épisodes.
Ouais, en fait il y a un épisode, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Doctor Who, hein, c'est un personnage un petit peu excentrique qui s'appelle le Docteur et qui voyage dans le temps et dans l'espace grâce à son TARDIS. Et quand il voyage dans le passé, on est souvent amené à rencontrer des figures historiques emblématiques en même temps que lui finalement. Et il y a un épisode qui s'appelle Agatha Christie mène l'enquête, où il est avec Donna et il rencontre Agatha Christie. La classe.
Ouais. Grave.
Ouais. Et contrairement à l'intrigue de l'épisode, il est fort peu probable que sa disparition ait quoi que ce soit à voir avec une guêpe tueuse extraterrestre. Et au passage,
oula,
je vous spoil.
Ah ouais, ouais, ok, d'accord. Mais quand même, apparemment, cette disparition est un petit peu bizarre.
Voilà, si les extraterrestres ne sont pas responsables, qui est le coupable ? Eh bien, on va voir ça tout de suite.
Et tu sais, j'ai appris des trucs sur Agatha Christie.
Quoi ?
Mais genre, en fait, elle faisait du surf à Hawaï. Elle aimait... Attends, il y avait des trucs... Enfin, moi, je m'imaginais vraiment, tu sais, la petite écrivaine avec, je sais plus, des vieux vêtements devant sa petite machine à écrire. Mais après, j'ai découvert une Agatha Christie qui est pas du tout comme ça, en fait.
Ah ouais ? Ah, ouais, je savais pas.
Hyper sportive, voyageuse aussi, elle adorait les voyages. Très aventurière, quoi, en fait.
Ouais. Ok.
J'ai découvert ça en préparant l'épisode aussi, parce que j'allais en fait préparer tout un truc sur Agatha Christie, puis j'ai vu que tu m'avais devancé. Donc
ah,
bon.
D'accord.
mais du coup, j'ai appris plein de trucs, ouais. C'est okay. Assez étonnant. Donc, comment a-t-elle pu disparaître ? C'est vraiment la question qu'on. Parce que quand tu surfes sur les vagues de Hawaï, tu te dis, mais. Comment est-ce que tu peux disparaître ?
C'est vrai. Donc, Agatha Christie, on fait un petit rappel. Juste, voilà, c'est une célèbre autrice britannique qui écrit des romans policiers. Et dans la nuit du 3 au 4 décembre 1926, elle disparaît mystérieusement. Et elle disparaît pendant 11 jours. Il y a de nombreuses théories sur le sujet, mais encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui semblent avoir joué un rôle. Et avant d'explorer les différentes pistes, j'aimerais revenir un petit peu en arrière pour avoir un minimum de contexte et parce qu'on parle aussi de ce que faisaient les auteurs avant d'être connus, donc on fait d'une pierre deux coups, quoi.
Ouais, ok.
Un petit peu en arrière, ça nous fait remonter à 1912. Agatha Miller tombe amoureuse d'un séduisant lieutenant dans l'aviation britannique qui répond au nom d'Archibald Christie. Psst, voilà, on voit d'où vient son nom.
On a Agatha, on a Christie.
Okay. Tout va bien. Ils se marient 2 ans plus tard, à Noël, le 25 décembre 1914, juste avant qu'ils ne partent pour la guerre. Pendant que son mari est à la guerre, Agatha ne reste pas à se tourner les pouces dans son coin. Elle s'engage comme infirmière dans un hôpital de la Croix-Rouge.
Ok.
Elle va travailler dans le domaine médical et en 1917, elle va passer un diplôme de pharmacienne. C'est comme ça qu'elle va se familiariser avec les poisons et les drogues, des connaissances qu'elle va mettre à profit dans ses romans.
Okay.
Est-ce que tu as lu beaucoup d'Agatha Christie ?
Alors, malheureusement, j'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai vu beaucoup d'adaptations télé.
Ouais.
Que j'adore d'ailleurs. Je trouve que voilà, il y a un jeu, c'est super bien fait quoi. Mais il y a une maîtrise. Bon, c'est toujours un même, comment dire, c'est un même procédé. Elle suit un même schéma en fait, un peu tout le temps. Mais j'ai vu aussi une anecdote folle que il y en a qui ont fait un algorithme mathématique pour détecter le tueur.
Bon. Non.
Parce qu'en fait, apparemment, elle suit tellement le même schéma que ça suit presque un algorithme mathématique, en fait.
Ah ouais ?
Parce qu'elle doit certainement avoir sa technique d'écriture, tu vois. Et donc, elle reste fidèle à sa technique d'écriture. Et donc, il y en a qui se sont amusés à la décoder, quoi.
D'accord, je comprends. Ouais. En même temps, j'anticipe un petit peu parce que je l'avais écrit un peu plus loin. Mais en fait, quand elle a commencé à travailler avec son éditeur, elle avait... Dans son contrat, c'était écrit qu'elle devait écrire un roman par an. Et quand tu dois écrire autant, je pense qu'il faut un minimum de méthode pour que une recette, pour que ça aille vite, quoi.
C'est clair, j'imagine. Ouais.
Et pour revenir à la petite histoire, donc on est en 1917, elle obtient son diplôme de pharmacienne, la guerre se termine, elle retrouve Archibald, qui est devenu colonel entre-temps, et elle accouche en 1919 d'une petite fille qui s'appelle Rosalind. Ce sera sa seule fille. La famille vit très modestement car son mari a de gros problèmes financiers et c'est pour ça qu'Agatha compte absolument sur son écriture pour lui apporter des revenus. Mais à cette époque, elle essuie pas mal de refus.
Ça commence toujours comme ça.
Voilà, on avait dit, pour Stephen King, c'était la même chose.
On commence à avoir l'habitude. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais finalement, en 1920, la magie opère et son premier roman, La mystérieuse affaire de Stiles, est publié. C'est un roman dont on avait parlé dans l'épisode 18 sur Mort sur le Nil, les ingrédients d'un bon polar, parce que c'est la première fois qu'apparaît Hercule Poirot. Et c'est un carton.
Ah ouais.
Ah ouais, on l'aime bien Hercule, avec sa petite moustache.
Ouais. Moi, ça me fait toujours quelque chose quand tu dis épisode 18, quoi. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, mais ok.
Donc, on peut dire que le rêve d'Agatha Christie se réalise enfin. Elle devient autrice et elle peut vivre de ses écrits. Les ennuis financiers sont derrière elle. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas ?
Certainement en tout cas.
Certainement, malheureusement non, sinon on n'aurait pas fait un épisode sur elle.
Ah,
on va tout de suite avancer à 1926, l'année qui nous intéresse. C'est une année un petit peu charnière pour Agatha Christie, elle perd sa maman, déjà très difficile.
Ok.
Et elle découvre que son mari la trompe avec une de ses meilleures amies. Pas cool, ouais. Donc au début, il dit oui, non, mais ça va être fini entre nous, t'inquiète. Et puis le 3 décembre, il lui dit, en fait, non, je suis amoureux, je te demande le divorce, je veux partir avec elle.
Ah, et alors là, c'est dur. Et là, elle l'empoisonne.
Très joli. On est plus
là,
dans la réalité,
dans
quand
tous
même.
Ses futurs bouquins. le premier mort s'appellera Archibald.
Ça se trouve, elle l'a peut-être tué dans une fiction, c'est vrai. Ah, pas mal. Mais non, malheureusement, non. Mais cela dit, malheureusement, enfin non, heureusement, on va dire.
Oui.
Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais ouais. Elle ne l'empoisonne pas, mais c'est une hypothèse qui a servi à expliquer sa disparition. Le fait qu'elle soit dans un état émotionnel assez trouble.
D'accord. Elle était troublée, quoi.
Voilà, qu'elle soit fragile au niveau émotionnellement, On s'est dit peut-être que sa disparition, c'est une réaction face à cette demande de divorce et face à cette situation personnelle assez difficile.
Ok. Pourquoi? Parce qu'elle disparaît le 3?
Elle disparaît dans la nuit du 3 au 4. Ouais.
Ah ouais, le jour
Je
même.
Je
ne
l'ai
quoi.
Pas précisé,
Ok.
voilà. Donc ouais, c'est pour ça fait les liens se sont tout de suite faits dans la tête des enquêteurs à l'époque. Mais
Ok.
revenons un petit peu sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, hormis le fait qu'elle ait reçu une demande de divorce. Ou plutôt, oui, cette nuit-là, parce que la demande de divorce, c'était le matin, et elle a disparu le soir. Elle est donc dans sa maison de campagne à Sunningdale et elle la quitte en laissant un mot à sa secrétaire pour lui dire qu'elle l'appellerait dès qu'elle arriverait à destination. Le lendemain matin, sa voiture est retrouvée abandonnée, les phares allumés, sans personne derrière le volant, ni même aux alentours. Donc on constate que la voiture a fait une sortie de route, elle a dévalé une pente assez raide et elle a été arrêtée par un arbuste juste avant de finir dans un étang pas très loin.
Ah, oh, ok, c'est les extraterrestres.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ça.
Cette scène est dans Doctor Who, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Mais ouais, pas de traces d'Agatha Christie, et on retrouve une valise à elle à l'intérieur et un manteau de fourrure. Donc elle a laissé ses affaires et elle est pas là. Très bizarre. Ouais, mais on sait pas, les enquêteurs ne savent pas si elle est morte, si elle est blessée ou si tout va très bien. Mais très vite, comme c'est une grande autrice, l'histoire fait les gros titres en Angleterre et à l'international. Donc pendant 11 jours, ils vont enquêter et finalement, le 14 décembre 1926, la police reçoit un signalement. Agatha Christie a été retrouvée dans un hôtel à Harrogate, en Angleterre, sous le nom de Teresa Neal. Et il faut savoir que ce nom, c'est le nom de la maîtresse de son mari.
Waouh, le nom de son ami, quoi, du coup.
Bah oui, ouais, plus trop amie, enfin, je suis
Ouais, plus trop
passée.
ami, mais waouh, 11 jours de disparition, c'est énorme.
Ouais, et pourquoi? Pourquoi? On lui demande et elle ne peut pas expliquer parce qu'elle a tout oublié.
Waouh.
Elle souffre d'amnésie. Alors là, on a la totale, hein. La disparition mystérieuse et l'amnésie tout autant mystérieuse, on dirait un petit peu un scénario de roman. Hein,
Ah ouais, c'est clair.
mais... Et d'ailleurs, ça fait une transition parfaite parce que c'est la seconde hypothèse avancée, la quête d'inspiration. Comme je l'ai dit au tout début, voilà, elle devait écrire un roman par an. C'est son éditeur William Collins qui lui avait fait signer ce contrat. Elle devait écrire un roman par an, sauf qu'à cette époque-là, elle n'arrivait pas à écrire. Et si, par manque d'inspiration, elle avait voulu mettre en scène sa propre disparition pour tester la solidité d'une intrigue.
Fait un petit peu exprès quoi, ouais, ok, tout est possible avec une autrice. Tu te dis, bon, est-ce qu'elle est pas allée chercher un petit truc, un petit quelque chose ou un coup de pub ou voilà, des choses comme ça quoi.
C'est ça, bah ouais, très bien que tu viennes de souligner ça parce que c'est la troisième hypothèse avancée par des journalistes un petit peu aigris qui vont effectivement l'accuser d'avoir fait ça pour faire parler d'elle et pour se faire un petit coup de pub.
Mais ils ont adapté au cinéma donc La Mort sur le Nil, il me semble. Je crois
Oui.
qu'on avait sorti l'épisode à cette occasion, à l'occasion de la sortie ciné. Il y en a eu un autre derrière, c'est Les Meurtres sur la Tamise ou quelque chose comme ça, je crois.
C'est vrai? Ah, je savais pas.
Ouais, qui est sorti au cinéma l'année dernière, peut-être. Je dirais ça. Et effectivement, Hercule Poirot est confronté à une autrice. Alors, elle s'appelle pas Agatha Christie dans le film, il me semble pas. Mais c'est comme une sorte de journaliste, je crois, journaliste ou écrivaine, peut-être c'est son propre rôle, qui met en scène Hercule Poirot. Et donc c'est étonnant parce que tu as un dialogue avec Hercule Poirot et cette dame qui lui dit, je sais que vous mettez en scène mes enquêtes, nanana, pour faire des livres, naninana. Et elle explique qu'elle est en manque d'inspiration et il la soupçonne en fait d'être là pour créer des trucs, enfin tu vois, pour retrouver l'inspiration. Enfin, il y a cette histoire en tout cas dans Les
Ok.
Meurtres sur la Tamise, voilà, que je
Ah, je
t'encourage
savais pas à
à
regarder.
regarder, même si je l'ai trouvé un peu tiré, enfin il tirait un peu en longueur par certains moments, j'ai trouvé,
Ah. C'est avec le
mais
même acteur que qui joue
ouais.
Hercule Poirot dans Mort sur le Nil? D'accord.
Tout à fait, qui est l'acteur
J'irai
qui
voir.
jouait Gilderoy Lockhart dans
Oui.
Harry Potter.
Il est méconnaissable, mais
Ouais, méconnaissable.
oui.
Tout à fait.
Et finalement, la vérité vraie, quelle est-elle? Donc,
Ah bah oui, quelle est-elle alors?
voilà, bah, Agatha Christie, souvenant d'amnésie, elle ne se souvient pas directement des faits. Elle Je ne sais pas si on lui propose ou si elle le fait de sa propre initiative, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, elle passe sous hypnose. Et sous hypnose, elle va expliquer ce qui s'est passé. Donc, effectivement, son mari lui annonce qu'il veut divorcer le matin du 3 décembre. Elle est bouleversée et sa première réaction, c'est elle a envie de se suicider.
Ah ouais, donc elle est bouleversée quoi.
Bah ouais, ouais, voilà. Donc la voiture, elle a pas fait une sortie de route par accident, c'était volontaire. Et okay. S'il n'y avait pas eu un Airbus pour arrêter son chemin, elle aurait vraiment fini dans les temps avec son véhicule quoi. Donc. Et c'est parce qu'elle était étourdie par l'accident qu'elle a perdu la mémoire et elle s'est mise à errer en se prenant pour une autre femme pendant ces 11 jours. Et elle disait que pendant ces 11 jours, elle avait oublié tous ses problèmes et qu'elle était parfaitement heureuse et qu'elle a dû malheureusement revenir à la réalité lorsque les enquêteurs l'ont retrouvée.
Oh, non, un truc de fou.
Ouais, hein, c'est...
Oh, blackout total.
Mais ouais, c'est dingue.
Ouais, le cerveau, des fois, fait des trucs particuliers.
C'est ça. Et cette histoire d'hypnose, ça va être la première et la dernière fois qu'elle va parler de l'accident. Même dans son autobiographie, c'est quelque chose qu'elle passera sous silence. Elle ne le mentionnera plus jamais après.
Okay.
Et par rapport à ce que tu dis, c'est un peu capillotracté, tout ça. Eh bien, justement, beaucoup pensent qu'elle n'a pas dit la vérité. C'est pour ça que ça reste mystérieux. Parce qu'on pense
ouais.
que
ouais.
elle cache
jamais.
Quelque chose. Et on ne saura jamais, bien sûr.
Okay.
Et voilà.
Ok, elle avait juste envie de prendre l'air s'il faut. c'est moins ouf quoi.
Ah, peut-être que c'est le docteur qui a la vraie version, moi je sais pas.
Peut-être c'était une guêpe géante extraterrestre.
Ouais, voilà. Ouais, peut-être que t'as une histoire moins capillotractée toi, je ne sais pas.
Ouais, une histoire plus terre à terre, celle de Janet Walls, parce que, bon, voilà, avant de vous parler de Maya Angelou, qui nous explique pourquoi les oiseaux en cage chantent dans un poème saisissant, je veux d'abord vous parler de Janet Walls, une écrivaine et journaliste américaine, issue d'une famille pas comme les autres, qu'on connaît pas forcément, et pourtant, elle a écrit notamment un bouquin, en fait, qui a par la suite été adapté au cinéma et qui l'a fait connaître. Mais j'ai trouvé son histoire assez bouleversante. Donc voilà, je voulais tout simplement vous la partager. Donc, Janet Walls, elle est née dans l'Arizona en 1960. Donc elle est contemporaine, hein, c'est vraiment contemporaine. Et donc, elle est née au sein d'une famille nombreuse et plutôt instable. Alors, plutôt instable, atypique on va dire. Parce que son père, Rex Walls... Rex, ça fait beaucoup penser à un nom, mais bon. Donc Rex, voilà, c'est un homme brillant, très charismatique. Il est inventeur, d'ailleurs, sa profession, c'est qu'il est inventeur. Donc tu vois un peu le... Vraiment, il est dans la caricature un peu loufoque de l'inventeur. Mais malheureusement, il est aussi très attaché à la boisson alcoolisée. Il est alcoolique. Et donc ce travers ne lui permet pas de maintenir un emploi stable. Donc... La famille est un peu précaire. Parce que sa mère, de son côté, Rosemary, c'est une artiste qui refuse de se conformer aux normes sociales et qui passe son temps à peindre et à écrire. Voilà. Donc, inutile d'insister sur le fait que les enfants Walls grandissent dans des conditions financières assez précaires, passant d'une ville à l'autre, dans l'instabilité, souvent sans argent ni nourriture suffisante. Ils vivent dans des maisons insalubres, sans eau courante ni électricité parfois, et doivent souvent se débrouiller seuls pour survivre. Donc là, on est dans les années 70-80, pour resituer. Malgré ça, Janet, tu l'appelais Janet, parce que Janet, je l'appelais Janet. Janet.
Très bien.
Malgré ça, donc Janet et ses frères et sœurs trouvent des moments de joie et de beauté dans leur vie en explorant la nature, en lisant des livres notamment, et en s'amusant ensemble. Parce que bon, il faut dire que les deux parents sont des artistes. C'est des poètes, c'est des créateurs, ils sont capables de voir dans le plus insignifiant battement d'ailes d'un papillon les secrets d'une histoire vertigineuse. Donc, les enfants Walls passent leur temps à développer leur imagination. Et ils sont pas les seuls, parce que le père Walls a un rêve. Lui aussi, il a beaucoup d'imagination. Son rêve, c'est de construire un château de verre. Oui.
Ah ouais.
Une maison en verre qu'il a conçu lui-même, il a inventé lui-même, voilà, il a fait les plans, etc. Et pour lui, ça symbolise sa vision d'une vie idéale, une vie certainement de transparence, de lumière, de, voilà, de beauté.
Un aquarium, bon, quoi.
Un aquarium, exactement. J'espère qu'il y a quelques parois opaques, quand même, je ne dirai pas lesquelles, mais quand même. Bon. Mais en tout cas, voilà, il rêve de ce château de verre, tout en verre. Et bien sûr, ce rêve ne se réalisera jamais parce que Rex, bah, il a beau être un génie dans la conception de cette architecture un peu étonnante, il est incapable de toute façon de surmonter ses démons, la boisson.
Ah, la boisson.
Et de fournir à sa famille la stabilité dont elle a besoin. Donc, il n'économisera jamais suffisamment d'argent et surtout, il n'arrivera pas à s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, au fil des ans, la situation de la famille Wall se détériore de plus en plus parce que les enfants grandissent, etc. et que bah, il n'y a pas plus de stabilité. Et donc, Jeannette, elle raconte elle-même que ses frères et sœurs doivent faire face à ce moment-là, à ces moments-là, dans des défis de plus en plus grands. Ils sont confrontés à la faim, à la violence, à l'insécurité, mais ça ne les empêche pas de s'épanouir dans l'imaginaire, on va dire. Et Jeannette, elle nourrit un rêve. Elle veut devenir journaliste. Mais alors là, moi, quand j'ai découvert ça, pourquoi journaliste? Vraiment, je me suis dit, pourquoi journaliste? Eh bien, en fait, pour trois raisons. La première, c'est parce qu'en fait, elle a découvert le pouvoir des mots pour raconter des histoires et transmettre des émotions. Et ça, elle est voilà, particulièrement sensible à ce pouvoir que peuvent avoir les mots. Et la seconde, c'est qu'elle voulait s'en servir pour informer et éduquer les gens. Car elle avait pris conscience de l'importance de l'information et de la connaissance des choses pour comprendre le monde qui nous entoure et pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Peut-être plus éclairées que celles de ses parents. On aurait tendance à dire. En tout cas, voilà, pour elle, être informée, être éduquée, ça pourrait permettre aux gens d'avoir une vie plus stable et confortable. Et la troisième raison, c'est que bah, Jeannette, elle avait envie de se faire la malle. Elle avait envie de s'échapper, rêver de voyage, rêver de parcourir le monde, d'être partout en fait, sauf ici. Donc, elle nourrit ses rêves de journaliste et un beau jour, elle se dit « Allez, j'y vais, je pars pour New York ». Donc là, elle part à New York et à son arrivée, bah, elle n'a que quelques dollars en poche, aucun contact dans le milieu du journalisme, donc c'est pas gagné. Elle trouve un emploi de serveuse dans un restaurant parce qu'il faut bien commencer et là, elle se met à chercher des opportunités pour écrire. Elle envoie des lettres de motivation à différents journaux et magazines et bien évidemment, ça marche du premier coup. Non, je déconne. Elle essuie bien évidemment ses premiers refus, assez nombreux d'ailleurs, mais bon, on a vu maintes et maintes fois que la plupart des grands auteurs et grandes autrices ont commencé comme ça, en essayant d'écrire pour des magazines, en se faisant la main en fait, puisque Florence...
Oui.
Puisque... puisque... Puisqu'il faut forger pour devenir forgeron.
C'est vrai, désolé, j'avais oublié notre slogan.
Donc voilà, donc aujourd'hui on le ferait peut-être plutôt pour des sites web, quoique après la presse existe toujours, même sous format numérique, mais aujourd'hui par exemple c'est vrai que ceux qui veulent commencer, bah, ils se mettent à écrire dans des magazines web ou des choses comme ça. On pourrait imaginer la même version mais en plus moderne. Bon, malgré ses refus, bien évidemment elle abandonne. Ben non, bien sûr. Elle persévère, elle se décourage pas. Et elle finit par décrocher un stage non rémunéré, parce que bon, quand même pas poussé, dans un journal local. Mais bon, pour elle, c'est grandiose. C'est déjà, voilà, c'est l'opportunité de... Bon, c'est un peu plus de boulot, mais ça y est, quoi. C'est la porte qui s'ouvre. C'est là maintenant qu'il faut montrer de quoi on est capable, quoi. Et donc, bah, du coup, elle travaille dur pour prouver sa valeur. Elle écrit des articles sur des sujets très variés, qui vont de la politique à la culture. Enfin, voilà, elle essaie de toucher vraiment tous les sujets, de se faire la main. Et en fait, bah, elle arrive à impressionner ses supérieurs par sa curiosité, sa ténacité et ce petit côté, elle a un petit côté rentre-dedans quand même dans son écriture.
Ah, dans son écriture.
Ouais, okay. Un petit côté direct. Elle mâche pas ses mots. Voilà, elle mâche pas ses mots et bon, en tout cas à ce moment-là, apparemment ça plaît. Donc petit à petit, Jeannette, elle gravit les échelons du journalisme new-yorkais. Elle décroche enfin un emploi de journaliste à temps plein. Donc là, ça y est.
Ah, jackpot. Elle est payée.
Ah ouais, ouais payée. À temps plein, bingo quoi, rêve réalisé quoi. Mais elle va pas s'arrêter là, bien sûr. Puisqu'elle commence par un magazine et après elle rentre dans un journal un peu plus prestigieux. Et là, elle se met à couvrir des événements importants, tels que les élections présidentielles, les attentats du 11 septembre. Bon, voilà, quoi, là, elle arrive sur des gros sujets d'actualité. Et donc, voilà, elle se fait un nom dans le milieu du journalisme grâce à sa plume, j'ai lu, directe et incisive.
Ok.
Et en 2005, elle écrit « Le château de verre ». Pour raconter son histoire et ce témoignage. C'est pour ça qu'on sait tout ça sur elle. C'est parce qu'elle a écrit une sorte de biographie qu'elle a décidé d'appeler Le Château de Verre. Voilà.
Excellent.
Ça devient un best-seller international et il est adapté d'ailleurs au cinéma en 2017. Voilà, donc tout finit bien pour elle.
Ah ouais, sympa. Je connaissais pas du tout et je savais pas qu'il y avait une adaptation cinéma. Ça m'a donné envie d'aller voir.
Oh. On partage nos petites astuces pour les flemmards. Des fois, il y a des films.
Oui, c'est pas faux. C'est bien, la persévérance. Ça finit par payer pour elle.
Ouais, exactement. Et puis, c'est marrant. C'est un petit clin d'œil d'avoir appelé ce livre Le Château de Verre. Elle aurait pu lui donner énormément de noms différents, mais elle a rendu hommage à son père, quelque part, et à son enfance, quoi. Bon, voilà. Après, on voit qu'effectivement, c'est jamais simple. Mais c'est des gens qui partent de rien et qui arrivent après ce qui n'est pas raconté c'est aussi une certaine personnalité j'imagine tu vois une personnalité, une ouverture d'esprit le fait d'être avenant certainement tu vois de... bon après il y a un contact, un feeling des fois tu peux très très bien travailler avoir une très belle plume si t'es par exemple trop introverti, trop renfermé ou au contraire trop bougon et que tu fais la gueule tout le temps, les gens vont pas forcément venir vers toi, tu vois. Je pense qu'il y a des choses aussi qu'on a du mal à décrire souvent dans les success stories où on privilégie énormément le travail et la persévérance, mais je pense qu'il y a aussi un côté humain, quoi. C'est-à-dire est-ce que tu arrives à avoir ce lien social plus ou moins facilement, quoi. Voilà. Écoute, je te propose de passer à la Servante écarlate.
Voilà, avec Margaret Atwood, qui va être un petit peu le contre-pied de ce qu'on racontait jusque-là sur les galères pour se faire publier, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Ouais, la Servante écarlate, avant d'en parler, j'aimerais rappeler quelques petites informations.
Ah.
En mars 2017, au Texas et dans le Missouri, des femmes entrent dans le Capitole vêtues d'une robe rouge. Trump venait de faire passer une loi pour supprimer la prise en charge des consultations du planning familial. La même année, en Irlande, des manifestantes portent cette robe rouge pour soutenir un projet de loi pour le droit à l'avortement. En 2018, en Argentine, dans une démarche similaire, des femmes s'habillent également d'une robe rouge. En Israël, en 2023, donc l'année dernière, c'est très récent, des manifestantes luttent pour le maintien des droits des femmes dans un pays qui cherche à les supprimer. Donc c'est quoi ce délire avec toutes ces robes rouges et qui sont associées aux droits des femmes?
Ouais, c'est fou.
C'est fou. Et ben ça vient d'un livre, d'un roman d'anticipation de l'autrice canadienne Margaret Atwood qui s'appelle La Servante écarlate.
Waouh. Ok.
Oui. Et elle insiste bien sur le terme roman d'anticipation parce que pour elle ce n'est pas de la science-fiction. C'est deux choses tout à fait différentes. Ouais, on a dit qu'on a des astuces d'écriture. Voilà. La science-fiction, ça va être un genre qui va vous renseigner sur le réalisme de l'histoire. Est-ce que ça va être plutôt réaliste? Est-ce que vous allez devoir suspendre votre... essayer de croire tout ce qu'on vous dit, des invasions extraterrestres, le voyage spatial, etc., alors que ça n'existe pas, finalement.
Ouais.
On a des attentes particulières sur de la technologie, sur...
Ouais, c'est un contrat, quoi. On part dans quelque chose de plus imaginaire.
C'est ça, tout à fait. Alors qu'un roman d'anticipation, C'est pas forcément un genre, c'est un genre qu'on connaît bien en France. Et pour être tout à fait franche, pour avoir travaillé en librairie, les livres de Margaret Atwood ne sont pas classés en science-fiction. Mais aux États-Unis, ils le sont. Parce que ça n'existe pas, le terme roman d'anticipation.
D'accord.
Et en fait, ça va juste être une hypothèse sur l'avenir. C'est okay. pas. Voilà, c'est
donc
de la fiction.
Une hypothèse plausible, quoi. Peut-être un peu extrême, ou peut-être un peu tirée par les cheveux, mais possible, quoi.
Voilà. Une okay. hypothèse possible. Et c'est un roman d'anticipation célèbre, pour vous donner un exemple, c'est 1984.
Ah
ouais.
On qualifie beaucoup de romans dystopiques, pourtant.
Oui, bah la dystopie, il peut... ouais, la dystopie, c'est un genre qui flirte effectivement entre science-fiction et anticipation.
Et ouais. Ouais. Mais je comprends. Ok.
Okay. Et pour la petite histoire du livre, donc l'histoire se déroule aux États-Unis. Les naissances se font de plus en plus rares et un groupe religieux décide de réduire en esclavage sexuel, le peu de femmes fertiles qui restent dans le pays, le but étant de les forcer à faire des enfants contre leur gré. Parce qu'on veut des enfants, pas... Voilà. Le droit des femmes, on s'en cogne, quoi. Donc c'est un roman qui a été écrit en 1984 et publié en 1985. Et à cette époque, comment cette idée est-elle venue à Margaret Atwood ? Là, je vais faire comme tu l'as fait tout à l'heure, je vais revenir un petit peu sur la vie de l'autrice.
Ouais.
Les parents de Margaret Atwood voulaient qu'elle suive une carrière scientifique. C'était tous les deux des scientifiques. Son père était zoologue et sa mère était nutritionniste. Avec un père zoologue, il partait souvent à droite, à gauche, en fonction de ses recherches.
Ouais.
Et il emmenait sa famille avec lui. Ce qui fait que Margaret Atwood a eu une enfance assez atypique. Hein. Pas misérable, pas difficile, mais elle partait vraiment dans des coins paumés. Et elle n'a pas une vie de petite fille ordinaire. C'est peut-être aussi ce qui lui a forgé un caractère, je trouve. Parce que quand tu vois ses interviews, tu sens qu'elle a une sagesse, elle a... Tu sens son expérience à travers son regard. Et dans ses
tu sens qu'elle a vécu, quoi.
Voilà, exactement. Même si elle est assez âgée aujourd'hui, mais il y a quelque chose. Donc, elle publie son premier livre en 1961. Il s'agit d'un recueil de poèmes. Et contrairement aux auteurs qu'on a vus jusque-là, elle n'a eu aucune difficulté à faire publier son livre. Et dès qu'il est sorti, ça a été un carton. Il a remporté directement un prix.
Oh putain, ça existe alors.
Ouais, premier livre, premier prix, c'est waouh. Il faut dire qu'elle a suivi des études universitaires spécifiques pour écrire.
Elle s'est bien préparée, quoi.
C'est ça. Puis par la suite, elle va aussi devenir prof à l'université. Enfin, elle maîtrise son sujet, quoi.
Ouais, elle maîtrise, ok.
Voilà. Et donc, même dans ses romans d'après, elle est reconnue, admirée par ses pairs. Elle va gagner plusieurs prix. Je crois que La Servante Écarlate aussi va remporter des prix ou des nominations. Enfin, voilà. C'est une autrice à succès qui a fait ses preuves et généralement, les gens reconnaissent son talent. L'année de la sortie du livre, en 1985, une journaliste du New York Times écrit que ce qui est écrit dans le roman ne pourrait jamais se produire. Elle, pour le coup, c'est un petit peu de l'ordre de la science-fiction.
Ok, ouais, elle, du coup, ouais.
Voilà. Mais elle n'est pas la seule à le penser, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou au Canada. Tout le monde se dit que c'est pas possible, qu'un groupe religieux ne pourrait jamais avoir autant de pouvoir dans des pays occidentaux comme ça, qu'une guerre civile était impossible. Et quant aux droits de la femme, eh bien, depuis les années 70, les mouvements féministes ont pris de l'ampleur et les femmes, petit à petit, gagnent de plus en plus de droits. Le droit à l'avortement aux États-Unis, ça date de 1973. Pour référence, en France, c'est 1975 avec la loi Veil. Et dans ce contexte de progrès, tous pensent que les choses ne peuvent qu'aller en s'améliorant. On fait des progrès, ça peut forcément qu'aller mieux tout le temps. Pourquoi on revient en arrière ?
C'est débile. D'accord, c'est ça.
Voilà.
Ok.
Sauf que des groupes religieux et des conservateurs, il y en a. Il y en a qui sont au courant de ces progrès et qui souhaitent justement voir la tendance s'inverser pour faire en sorte que les femmes retournent à la cuisine, quoi. Dans ce contexte-là, Margaret Atwood a simplement eu à se demander si on voulait vraiment faire machine arrière, comment est-ce qu'on procéderait ? Eh bien, au lieu de donner des droits aux femmes petit à petit, on pourrait leur en enlever petit à petit.
Ouais, ce serait une machine arrière progressive.
Ouais, bon. De la même chose, mais dans l'autre sens.
Je rappelle qu'on vient de l'inscrire, nous, dans la Constitution. Hein. Voilà, c'est récent, il n'y a pas longtemps, ça vient d'être voté. Hein, donc...
C'est vrai.
Mais une c'est fois que c'est dans la Constitution, normalement, ça, on n'y touche plus. Hein.
Oui, mais ça veut dire que c'est une liberté, c'est pas un droit. Ouais. C'est symbolique. Donc pour ceux qui rétorqueraient que ça pourrait jamais se produire, Margaret Atwood cherchait justement à leur faire comprendre, grâce à son livre, que des retours en arrière sont toujours possibles. L'histoire l'a montré à de très nombreuses reprises, et rien ne peut jamais garantir le progrès. Le pire peut toujours se produire. Mmh. Ouais. Et pour la société totalitariste qu'elle a imaginée autour de cette thématique de la suppression des droits des femmes, elle a écrit ce roman quand elle était en Allemagne, invitée par une université, un échange universitaire. Hein. Elle était prof.
Okay. Voilà.
Et elle résidait dans une région proche de la RDA, c'est-à-dire qu'elle était très proche du mur, où il y avait des tensions politiques vraiment palpables. Hein. C'est...
Ouais, forcément, le mur, c'était quelque chose.
C'est ça. 1984-85, c'est avant ma naissance. Le mur, il est tombé en 89. J'avais 4 ans, je m'en souviens.
Ah ouais, c'est ça. Je savais que c'était dans les années 80. J'aurais dit 81, tu vois. Donc, oui, 89, ouais, ok. Mais ouais, c'est tard, c'est hyper tard.
Ouais, c'est assez tard. Et ce sont un petit peu ces circonstances qui ont inspiré son roman. Pendant son séjour en Allemagne de l'Ouest, finalement, elle a aussi été en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Pologne. Elle a rencontré des gens, elle a discuté avec eux et elle a remarqué un petit peu cette méfiance. Les gens étaient assez renfermés. Ils n'aimaient pas trop parler parce qu'on était encore dans un contexte de guerre froide. On avait peur de l'espionnage et de la délation. Donc, tu ne sais pas ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Ça aussi, elle s'en est inspirée pour mettre à l'intérieur de son roman.
Ok. Ouais.
T'avais vu la série, toi ?
Ma femme. Moi, je ne l'ai pas regardée. Donc, j'ai vu des extraits par-ci, par-là, et j'ai cru comprendre, effectivement. Déjà, j'ai ressenti le côté un peu pesant de l'atmosphère. Ouais. Et il quand même a expliqué que le constat, c'était, voilà, tac-tac... Faut relancer la natalité.
Ouais.
Ouais, et faut faire 10 milliards d'euros d'économie, par exemple. Voilà, je sais pas. Je ne cite pas l'actualité. et que du coup, il y avait, on prenait les femmes fertiles et hop.
C'est ça.
Je me suis dit, ah ouais, c'est costaud quand même. C'est costaud comme truc, quoi. Et tu te dis, n'en serait-on pas capable si vraiment il y avait... Tu vois, si vraiment il y avait besoin et pénurie, genre une grande guerre, tu vois, ou famine, ou genre la peste, ou un truc, et il faut relancer. Est-ce qu'on n'en serait pas capable, quoi ? Ouais, c'est dur.
Aux États-Unis, ça commence avec la suppression du droit, enfin la Roe versus Wade qui a été supprimée.
Il me semble qu'en Italie aussi, c'est d'actualité ce sujet. Hein.
C'est vrai.
Ils voulaient revenir en arrière, je crois. En Italie, à confirmer, mais vraiment j'ai l'impression que c'est un parti de droite, très très droite et catholique qui est passé là en Italie et voilà, qui est pas forcément très en faveur de l'avortement, ouais, il me semble.
C'est Margaret Atwood, son intrigue commençait par un parti religieux qui prend le pouvoir justement, donc...
Bon, après il y a toujours eu des rapprochements effectivement des deux parties, hein. Ok,
ouais, c'est sûr.
Très bien. Eh ben, passons sur un sujet beaucoup plus joyeux.
Ouais.
Je préfère le vendre comme ça. Beaucoup plus joyeux. Donc, d'un poème de Maya Angelou que j'ai découvert, figure-toi, sur la quatrième de couverture. Enfin, que dis-je ? La sixième de couverture. d'un carnet de notes. Tu sais, j'ai acheté un carnet de notes un peu stylisé, là, pour le boulot. J'en ai un par an. Donc, l'année dernière, j'en ai acheté un, là. Et derrière, il y a comme un manuscrit de je sais pourquoi l'oiseau chante en cage. I know why the catted bird sing, un truc comme ça. Je sais plus le titre en anglais.
C'est en anglais.
C'est en anglais. Et le manuscrit est en anglais. Mais je me suis dit, mais tiens donc, mais quel est donc ce poème ? Et j'ai découvert ce poème et j'avais envie comme ça de vous partager un extrait et puis surtout la vie de celle qui l'a écrit.
Ok.
Donc, alors je vous en fais une traduction anglais-français qui est un peu la mienne. Hein. C'est un peu la mienne. Normalement, c'est assez facile, voilà. Alors, l'oiseau libre le sait bien, mais l'oiseau en cage chante aussi. Il chante avec une ferveur que n'ont pas les ailes libres. Vous avez vu les guillemets, je suis sûr. Le chant de l'oiseau en cage est chargé de tristesse et de nostalgie. Il chante la douleur et la peur de l'étranger et de l'inconnu. L'oiseau en cage chante la solitude et l'isolement. L'oiseau libre, lui, pense à un autre ciel, mais l'oiseau en cage, il chante la liberté. Il chante la liberté avec une telle force et une telle conviction que même l'homme le plus insensible ne peut rester indifférent. Et celui qui écoute le chant de l'oiseau en cage peut apprendre quelque chose sur la liberté et l'espoir. Le chant de l'oiseau en cage est un cri pour la liberté. Et quand l'oiseau en cage chante, il nous rappelle que nous sommes tous des oiseaux en cage, en quête de liberté et de bonheur. Le chant de l'oiseau en cage est un rappel constant que nous devons continuer à lutter pour la liberté et la justice pour que tous les oiseaux puissent chanter librement.
Wow.
Voilà un extrait.
C'est joli.
Un simple extrait que je trouve c'est tellement bon, assez poétique, tu vois, c'est pas trituré de plein de mots bizarres, etc. C'est simple, c'est clair, mais c'est posé et c'est très joli, je trouve, très
Je suis
poétique.
d'accord. Ouais. J'aime beaucoup.
Qui a écrit ça? Eh bien, c'est Maya Angelou, qui est malheureusement décédée en 2014, à l'âge de 86 ans. Et c'était une romancière, une poète, dramaturge, essayiste, actrice, scénariste, productrice, documentariste et même professeure à l'université américaine. Le premier tome de sa série autobiographique, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, en 1969, raconte sa vie jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est à la fois un poème qui est apparu dans un recueil de poèmes, le titre, et c'est à la fois aussi le titre de son autobiographie. Et c'est ce livre autobiographique, pas le poème, c'est le livre autobiographique, qui lui permettra vraiment d'accéder à la célébrité assez rapidement. Allez, je te rejoins quand je te... assez rapidement, effectivement. Et donc, Maya Angelou, donc on apprend qu'elle est née en 1928 à Saint-Louis, dans le Missouri. Elle a grandi dans une famille marquée par la ségrégation raciale et la pauvreté, parce que c'est une femme noire. Et à l'âge de 8 ans, malheureusement, Maya subit un traumatisme sexuel lorsqu'elle est violée par le petit ami de sa mère. Dur. Après l'agression, Maya devient muette pendant plusieurs années, pensant que sa voix a le pouvoir de tuer. Et lorsqu'on connaît cette histoire, le poème que je viens de vous raconter s'habille d'un tout autre voile bien plus obscur et profond. Maya et son frère partent ensuite avec leur mère à San Francisco où ils découvrent un monde différent, un peu de repos, car c'est un monde plus ouvert et plus tolérant. Donc Maya commence à lire et à écrire de la poésie et elle trouve dans les mots un moyen d'exprimer ses émotions et ses pensées. Elle se passionne également pour la musique, pour la danse, et elle commence à se produire sur scène. À l'adolescence, Maya devient une mère célibataire très vite, et elle doit faire face aux défis de la maternité et de la pauvreté. Elle travaille dans différents emplois pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, tout en poursuivant son rêve de devenir écrivaine et artiste. Alors, oui, promis, il faudra qu'on vous fasse un podcast avec des artistes qui naissent riches, parce que chaque fois ils sont fauchés. Bon, on va croire que la créativité, tu sais, elle est nourrie que par la pauvreté. Donc, non, on fera un épisode qu'avec des artistes riches. Mais enfin, bref, au fil des ans, Maya voyage et elle rencontre des personnes de tout horizon qui l'inspire, l'encourage à poursuivre sa carrière artistique. En fait, Maya, elle sait s'entourer, et ça, c'est important de bien s'entourer. Puis, quelque part, elle laisse faire son talent, parce qu'elle écrit formidablement bien, et son fort caractère aussi, pour devenir une figure importante de la littérature et de la culture afro-américaine. Voilà l'histoire de Maya Angelou.
Ok.
Une histoire très, très particulière, bien. Mais ouais. pleine ouais. d'espoir, même si elle commence mal.
Oui, c'est ça. Ouais. Non, il y a quatre figures très différentes, mais très inspirantes.
Quatre femmes podcast. Complètement différentes, ouais. Qui se rejoignent quand même, j'ai l'impression, avec un petit côté caractériel.
Ah, c'est vrai.
On sent quand même qu'il y a... Voilà, elles sont bien assises, quoi. C'est...
Ah, il faut pouvoir se démarquer dans un monde comme ça.
Ouais, ouais. Je crois qu'effectivement, c'est vrai que c'est un trait commun qu'on retrouve souvent chez les femmes célèbres, effectivement.
Oui, c'est vrai.
Qui ont porté des projets comme ça, parce qu'en plus le monde de la littérature c'est quand même un monde particulier, voilà, c'est difficile d'en vivre aussi, il faut être au top du top en fait, quoi, si tu veux pouvoir en vivre, donc il faut se hisser à la première place. Et ben écoute, merci Florence pour cet
merci
épisode qui était riche de plein de choses.
Oui, exactement.
Est-ce qu'on n'inviterait pas nos auditeurs pas encore abonnés à s'abonner quand même?
Ah oui. Oui, ce serait pas mal.
Voilà,
ce serait
pas ils mal. Peuvent s'abonner, ils peuvent noter 5 étoiles ce podcast si ça leur a plu, puis surtout ils peuvent le partager à quelqu'un qui a envie d'écrire, parce que ça l'aidera forcément.
Et tout à fait, on espère en tout cas.
Bah, en tout cas, on fait tout pour. Hein.
Ouais.
Bon, ben merci. Merci à vous tous. Merci à toi, Florence.
Merci.
Et puis, ben, on se retrouve normalement dans 15 jours, puisque c'est tous les 15 jours. Et c'est puis, ça. Pour de nouvelles aventures, voilà.
Et voilà.
À très vite.
Dans 15 jours.
Ciao.